France Inter. Le 18-20. Claire Servageant.
Au téléphone sonne ce soir, Noël, Nouvel An, que fêtons-nous exactement? Quel est le sens de ces fêtes de fin d'année et de la fête d'une manière générale? Est-ce le besoin de se retrouver, de penser à autre chose, d'échapper au quotidien, de faire de nouvelles rencontres, sachant qu'une fois de plus, le Covid va jouer les troubles fêtes, la faute à Delta qui a déjà conduit à fermer les discothèques et voilà désormais Omicron qui pourrait bien avoir raison de certaines festivités de la Saint-Sylvestre, sachant que la bamboche est déjà sous cloche. Cela dit, le Covid est-il vraiment le seul responsable de ce recul de la fête? Et d'abord, y a-t-il vraiment moins de festivités qu'avant? Avec nous pour en parler, trois invités que l'on remercie très chaleureusement pour leur disponibilité en ce soir de Noël. À mes côtés ici en studio, Jérémy Pelletier. Bonsoir.
Bonsoir.
Directeur des études à la Fondation Jean Jaurès. Vous publiez aux éditions de l'Observatoire « La fête est finie » avec un point d'interrogation qui ressemble fort à un point d'exclamation. On verra ça tout à l'heure. En direct avec nous également, mais ils sont à distance, Stéphane Flocari, qui est professeur de philosophie et auteur aux belles lettres de deux ouvrages qui nous intéressent tout particulièrement ce soir, Nietzsche et le Nouvel An et Survivre à Noël. En ligne également, Christophe Moreau, qui est sociologue, directeur de Jeux de Vie, un centre de recherche indépendant en sciences sociales basé en Bretagne, co-auteur chez RS d'un essai intitulé « Les jeunes face à l'alcool ». Alors, n'hésitez pas à joindre le standard de France Inter pour discuter avec eux.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et tout de suite, nous prenons un premier appel. Véronique a appelé le standard de France Inter. Bonsoir Véronique.
Allô ?
Oui, Véronique,
oui,
vous êtes sur l'antenne, bienvenue.
Oui.
Véronique, êtes-vous du genre à faire la fête ?
Oui, beaucoup. Hein, même si ce soir, ça va être un peu plus réduit, mais oui, beaucoup, oui.
Un peu réduit à cause du Covid, c'est ce
oui,
que
voilà,
vous sous-entendez ?
À partir du nombre de... Voilà, au lieu de 25, nous allons être beaucoup moins nombreux.
La fête, Véronique, quand vous dites adepte de la fête, toutes sortes de fêtes, parce que par exemple, j'imagine que Noël et Nouvel An, chez vous comme chez plein de gens, c'est pas du tout la même chose.
C'est que Noël, on est davantage en famille, même élargie, il y a des amis aussi, suivant les cas, et le Nouvel An, oui, c'est essentiellement qu'entre amis ou amis d'amis, enfin voilà, c'est faire des fêtes avec plein d'interactions et des rencontres, la différence, elle est là pour moi.
Globalement, Véronique, pour vous, une fête réussie, c'est quoi? Comment vous définiriez ça?
Pour moi, ce que j'essaie chaque fois, c'est justement qu'il y ait invité des amis ou qu'il y ait juste d'autres rencontres, qu'il y ait des rencontres, des fous rires, des interactions, qu'il y ait du bon vin, du champagne, un peu de pastis, de la bonne musique, et puis aussi une partie d'improvisation. Enfin, ce soir on est servi pour l'improvisation, mais le côté improvisé et des choses qui se déclenchent, c'est ça que j'aime bien, que les choses se fassent un petit peu, qu'il y ait des choses un peu spontanées qui se fassent, avec des blagues, des non-blagues, enfin, que ce soit gay, voilà.
Et vous avez l'impression que les choses ont changé ces dernières années en France à propos de la fête ou c'est toujours un peu la même chose? Vous voyez un recul ou pas, vous?
Moi, je vois un petit recul et par rapport à ce qu'on vit depuis 2 ans, mais de fait, du côté pratique, que justement, les listes des invités ou des conviés, ça m'a arrivé il y a 15 jours, une grosse fête où j'ai pas pu aller, c'était positive. C'est ça qui change. Après, non, moi sincèrement, quand on arrive à en faire, heureusement, non, je vois pas de. Non, on reste toujours aussi à aimer ça, à être festif. Et à faire, à danser, à rire, ça reste des choses que je continue à organiser ou d'autres le font. Enfin non, ça reste un élément important dans mon rythme de vie.
Et ce sera encore le cas ce soir?
Oui, même s'il y a beaucoup d'improvisation, que tout le monde ne sera pas présent, mais on va le faire dans ce sens-là.
Hein. Allez, on vous souhaite un joyeux Noël, un bon repas et puis quelques pas de danse. Merci. Merci Véronique, un très joyeux Noël à vous et merci d'avoir appelé France Inter. Jérémy Pelletier, vous qui venez d'écrire ce livre « La fête est finie pour l'interrogation », je vous voyais prendre des notes quand Véronique parlait sur sa définition de la fête. Vous vous y retrouvez ?
Ouais, absolument, je m'y retrouve beaucoup. Elle a cité trois éléments qui sont très importants. Elle a dit la fête, c'est très souvent des nouvelles rencontres, faire potentiellement la fête avec des amis d'amis. Elle a cité effectivement le terme d'improvisation et effectivement elle a cité les termes de spontanéité. C'est-à-dire que je pense qu'elle l'a très bien fait. C'est une fête est là pour que à un moment donné, il se passe quelque chose qui n'était pas prévu. Une fête effectivement réussie, c'est une fête qui n'est pas contrôlée. Il y a une part effectivement d'immaîtrisable dans la fête. Or, c'est exactement pour ça que je pense que la fête est en partie malade et que la fête est en partie effectivement finie, comme je l'ai dit dans le livre, c'est que on est dans une société qui a tendance à vouloir tout contrôler. La société, effectivement, du sur-mesure, la société des plateformes qui nous permet effectivement de commander des choses à manger de façon totalement sur-mesure.
Et ça n'empêche pas de faire la fête, de commander à manger ?
Non, ça n'empêche pas de faire la fête, sauf que tout ça, vous savez, a développé ce qu'on appelle la fête à la maison. Et effectivement, on assiste au déclin, au délitement des lieux collectifs par excellence que l'on connaissait, les boîtes de nuit, les bistrots et tous les lieux collectifs par excellence. Et parallèlement, effectivement, à ce délitement et la disparition de ces lieux, ce à quoi on assiste depuis effectivement 10 ans maintenant, c'est le développement de la fête à la maison. Et la fête à la maison, vous filtrez les gens qui viennent, vous contrôlez les gens qui viennent. C'est un moment, effectivement, où c'est beaucoup plus difficile de rencontrer des gens inconnus, des gens que vous n'étiez pas censé connaître, ou en tout cas rencontrer dans votre vie de tous les jours. Or, cette dimension rencontre de personnes inconnues, c'est une dimension centrale de la fête et qui a tendance effectivement à disparaître dans l'époque du sur-mesure et du tout-contrôle dans laquelle nous sommes.
Alors, on va y revenir, mais je voudrais avoir l'avis de Christophe Moreau. Vous m'entendez bien, Christophe Moreau ?
Oui, bonsoir.
Oui, bonsoir, bienvenue à vous. Vous êtes sociologue, je le disais tout à l'heure en vous présentant, directeur de Jeux de Vie, qui est un centre de recherche indépendant en sciences sociales basé en Bretagne. Est-ce que vous, je ne sais pas si vous avez suivi ce qu'on vient de dire, sur la définition de la fête, sur le fait que si on la privatise, c'est plus tout à fait ce que c'était avant. Vous êtes d'accord avec ça ?
Ben, écoutez, oui, il y a des choses qui évoluent, mais on a certaines tendances, mais disons que c'est un phénomène d'abord très complexe, il faut rester modeste par rapport aux analyses qu'on peut en faire, parce que c'est protéiforme. Dans les travaux que nous on a pu faire avec mon équipe, on voit bien qu'il y a toujours ce trépied qui est ce qu'a dit Véronique, hein, des amis, de la musique, et puis des émotions fortes autour de l'ivresse, et avec un peu de lâcher prise, bon.
Et de l'imprévu aussi.
La partie de la population qui lâche prise, c'est pas 100% de la population. On a toujours eu des personnes qui étaient plus sur la réserve, sur filtrer un petit peu ce qui allait se passer et rester dans des choses assez attendues. Mais je pense qu'on a une population à la fois qui va être en recherche d'attendu et ne pas lâcher prise, et puis sans doute autour de 25 ou 30% de la population qui va aller beaucoup plus loin dans des émotions, dans des surprises, dans du lâcher prise, justement. Donc je ne sais pas s'il y a un déclin. Ce qui est vrai, c'est que les choses évoluent. La place des cafés, des discothèques évolue, mais on a par exemple encore des rassemblements festifs, y compris clandestins, dans des grands hangars. On a encore beaucoup de festivals, on a des grands rassemblements publics pour le Nouvel An, pour le 14 juillet, même si là, en période de Covid, évidemment, il y a des choses qui changent. Donc je pense que ça change de forme, ça évolue, des choses changent, mais je ne sais pas si la fête est finie et si on est en plein déclin, puisque souvenez-vous, au Nouvel An, l'année dernière, on avait encore des rassemblements clandestins qui était même assez important, et puis beaucoup de rassemblements dans les appartements. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu un repli dans les appartements, notamment chez les jeunes, à partir des années 2000, 2005, 2010, où on a beaucoup policé les espaces publics. On avait, dans les années 2000, beaucoup de rassemblements dans les villes étudiantes de jeunes adultes, avec l'apogée en 2010 qui était les apéros géants. Je vous rappelle qu'on avait des fois des 10, 15 000 jeunes rassemblés en centre-ville. Et ensuite, on a eu de plus en plus d'interventions de prévention ou de sécurité. Et actuellement, sans doute, une politique de santé publique et de sécurité qui sont assez prononcées. Donc, sans doute, un repli sur la sphère privée. Mais ça ne résume pas toute la situation.
Bien sûr. On reviendra évidemment sur tout ce que vous venez de dire, Christophe Moreau, parce que je précise que vous travaillez notamment sur la question des fêtes dans l'Ouest, du côté de Rennes et de Nantes, sur ces grands rassemblements qui existent dans l'ouest de la France. Mais je voudrais qu'on fasse réagir Stéphane Flocari. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Au téléphone, mais allez, la liaison est bonne, on vous entend. Vous êtes, je le disais, professeur de philosophie, auteur aux belles lettres de Nietzsche et le Nouvel An et de Survivre à Noël. Alors, on va évidemment s'arrêter avec vous, notamment sur cette fête de Noël. Stéphane Flocari, mais peut-être d'abord une réaction à ce qu'on vient d'entendre sur le fait que la fête aurait pu changer de nature depuis quoi, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'années, qu'elle se serait en partie privatisée, mais elle est toujours là.
Écoutez, c'est possible, elle a peut-être changé. Moi, je comparais ça avec le cinéma. Pendant très longtemps, on allait au cinéma. Et puis, de plus en plus, aujourd'hui, on a des home cinéma. On reste chez soi, effectivement, et on se fait livrer à manger entre 3 ou 4 amis. Mais ce soir, la fête de Noël et les fêtes, le cycle de fêtes dans lequel nous entrons maintenant, ça n'a rien à voir avec le fait de faire la fête. Moi, je voudrais pas qu'on confonde le fait de faire la fête. On peut faire la fête n'importe quand, avec n'importe qui, comme on veut. Et puis le fait d'être pris dans cette période qu'on appelle très particulièrement la période des fêtes. Le sociologue Paul Yonet avait une phrase que j'ai mis en exergue de mon livre « Survivre à Noël ». On n'est jamais tout à fait libre de participer à une fête. Ce qui caractérise une fête, c'est précisément la possibilité d'un écart pour le groupe social par rapport à un ordre. Et cet écart, ou du moins la création possible d'un petit désordre, d'un petit non-ordre, et la possibilité de reconsolider, de redonner son assentiment à l'ordre social. Moi, je pense que cet écart, ce petit pas de côté, on en aura toujours besoin, et on en a toujours besoin. Alors, bien sûr, la fête change, on ne mange plus à table tous la même chose, on se réunit, mais surtout depuis 2 ans, d'une manière très particulière. Mais je ne crois pas du tout que la fête soit finie, pour ma part. Je pense que peut-être il y a une certaine manière de la faire qui a évolué, mais le besoin de faire la fête, pour moi, il est plein et entier, il a peut-être jamais été aussi fort. On voit que les gens, même masqués, même avec du gel sur les mains, même avec des tests PCR, font tout pour se réunir. Ils ont besoin de la fête plus que jamais.
Merci Stéphane Flocari, on va vous retrouver dans quelques minutes. On va, en attendant, repartir au standard de France Inter. On va aller à Grasse, dans les Alpes-Maritimes, retrouver... Bonsoir Maude, êtes-vous là ?
Bonsoir, oui, je suis là.
Merci beaucoup, vous allez vous apprêter peut-être à réveillonner, mais vous avez pris la peine d'appeler France Inter, bravo, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Vous souhaitiez nous poser une question Maude ?
Oui, je souhaite vous poser une question pour savoir si la sensation de faire une belle fête, nécessairement, évidemment, ce moment-là, en ce qui concerne les fêtes de fin d'année, est lié à un souvenir peut-être d'enfance, et donc répond à une attente de la part de tous.
Merci pour cette question, Maud. Est-ce que je peux vous demander juste peut-être votre réponse à vous avant de demander la réponse de nos invités ?
Ah bah oui, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui est lié à toutes les fêtes d'enfance que l'on a vécues et qui sont pour nous comme un écho, comme un écho de ce qu'on a été. Et je pense qu'effectivement, oui, quelque part, c'est nécessairement lié à toutes les expériences qu'on a pu avoir. Et donc, on attend toujours quelque chose qui peut-être risque évidemment d'être déçu hein, par rapport à ce que l'on a vécu avant et qui était peut-être magnifié quand on était enfant. Voilà.
Merci Maude pour cette remarque, cette question-réponse que vous venez de nous faire, Jérémy Pelletier. Le côté souvenir qu'évoque Maude, c'est très important évidemment.
Le côté souvenir, c'est très important. Le côté retour à l'enfance, c'est très important. Et alors effectivement, on pourrait dire que Noël symbolise justement ça, symbolise la fête du retour à l'enfance. Mais finalement, c'est un peu la même chose pour l'ensemble des fêtes. Et c'est ce qui caractérise effectivement la fête comme un moment séparé du reste. C'est un moment où vous autorisez effectivement de nouveau à avoir un comportement d'enfant. Vous avez sans doute déjà dit, vous personnellement, ou entendu dire des individus avec qui vous êtes en train de passer une soirée, après une danse, j'ai eu le sentiment de retrouver mes 18 ans. J'ai eu le sentiment de retrouver mes 20 ans. Et effectivement, il y a toujours comme ça une part de nostalgie, une part de retour à l'enfance, parce qu'effectivement, une fête, c'est ce moment-là qui vous permet effectivement de revenir à l'enfance. Si on fête nos anniversaires effectivement aussi chaque année, c'est aussi par nostalgie par rapport aux cadeaux d'enfance, effectivement, que vous receviez. Si vous continuez, effectivement, à souffler vos bougies comme lorsque vous aviez 5, 6, 8 ans ou 10 ans, alors que vous en avez aujourd'hui 70, c'est qu'effectivement, il y a toujours cette part aussi nostalgique de retour à l'enfance, ce qui est très important et qui est intrinsèque à la fête.
Christophe Moreau, vous êtes d'accord là-dessus ?
Oui, mais ce qui est sûr, c'est que la fête structure nos identités. Le propre de l'humain et la complexité de l'humain, c'est que la personne se réalise dans un collectif. Et on est tous structurés, pas seulement par tous les jours du quotidien, mais par ces petits moments à côté, où on fête un anniversaire, un mariage, un temps fort, un bac, un permis de conduire. Donc effectivement, je dirais pas forcément que la fête nous ramène à notre enfance, mais en tout cas, elle nous permet de construire nos biographies, quoi. Elle sert à solidifier le groupe et ensuite construire chacun son histoire. Donc dans la fête, il y a une dimension un peu d'obligation. C'est difficile d'échapper à la famille au moment de Noël. Il y a quelque chose de l'ordre de la cérémonie, de la contrainte sociale. Et puis souvent, un peu plus tard dans la soirée, dans la nuit, il va se passer des choses un peu plus inattendues. Et là, ça va être plus un registre émotionnel. Donc la fête alterne à la fois de l'obligation sociale, on se conforme aux exigences du groupe, on se construit dans l'exigence du groupe, et en même temps, on va s'en affranchir, vivre des expériences parfois fortes, des initiations, notamment au cours de la nuit. Donc il y a un petit peu les deux faces. Il y a le début de la soirée, un côté un peu cérémoniel. Et puis il y a le développement de la nuit où là, on va s'affranchir des codes, on va enlever la cravate, on va s'affranchir du social pour vivre quelque chose de beaucoup plus émotionnel. Et les êtres humains ont besoin de partager des émotions. On a besoin aussi du corps. C'est pourquoi pendant la période du Covid, par exemple, on peut aller voir des concerts en masse, en ligne. On peut aussi faire des apéros en ligne, mais ça ne peut pas remplacer l'interaction par le corps. Parce que le corps, c'est celui qui vibre et qui nous permet de partager des émotions.
Et c'est par le corps que passent effectivement les émotions de la fête. Stéphane Flocari, sur ce qu'on vient de dire, le côté souvenir, le côté retour en enfance, quelle est votre analyse à vous ?
Bah écoutez, je trouve qu'elle est géniale, cette question de Maud qui nous vient de Grasse. C'est vraiment la question qu'il faut se poser ce soir. C'est-à-dire le problème, c'est que ce soir, quand nous revenons chez les nôtres, quand nous retournons au pays des nôtres, nous sommes confrontés à l'expérience effectivement de la nostalgie, qui est liée, comme un philosophe qui s'appelle Vladimir Jankélévitch l'a bien montré, au phénomène de l'irréversible. C'est-à-dire que quand nous revenons chez nous, nous faisons retour vers des lieux et vers des relations qui ont évolué, qui ont changé, qui ne sont plus les mêmes. Surtout nous-mêmes, nous avons changé aussi en chemin. Et ce soir, il va nous falloir mettre plusieurs costumes. C'est sans doute une des difficultés de la fête de Noël, intrinsèquement, pour la réussir, c'est que nous avons différents choix. Nous avons un choix intime, celui qui a vécu au cours de cette année un certain nombre de choses, et chaque individu a son vécu propre. Puis nous avons aussi un choix statutaire, qui est la place, le rôle, la fonction, la relation, la symbolisation que nous incarnons dans notre groupe famille. Et Noël est une fête très particulière, parce que ce n'est pas simplement une fête de famille parmi d'autres, comme l'anniversaire du petit dernier, la première communion du grand, le baptême de l'un, ou l'entrée à polytechnique de l'autre, mais c'est la fête de la famille. Donc c'est pas une fête de famille, c'est une fête de la famille, c'est une fête où la famille s'éprouve à l'intérieur du groupe social général, comme un groupe à l'intérieur de ce groupe, et c'est pas toujours simple de retrouver sa place, surtout quand des fois les familles sont recomposées, ou quand tout simplement des êtres nous ont quittés.
Ou tout simplement que chacun a évolué. Jérémy Pelletier, sur cet aspect-là.
Mais on oublie aussi, je crois, que Noël, ça peut être aussi une fête angoissante. Et effectivement, quand vous regardez les enquêtes d'opinion, vous avez une part importante des Français, quasiment un tiers, effectivement, qui redoutent effectivement Noël et les fêtes de fin d'année d'une façon générale. D'une part, pour ce qui vient d'être évoqué, à savoir le retour vers une famille ou en tout cas une soirée avec la belle famille. Il y en a beaucoup qui redoutent aussi, vous savez, la prise de poids et tout ce que vous allez effectivement ingurgiter durant cette soirée. Et il y a un caractère aussi très angoissant à cette fête parce que c'est quand même aussi la fête de la société de consommation. Et je crois qu'on oublie trop souvent aussi qu'il y a une forme aussi de compétition, vous savez, dans l'achat des cadeaux et dans la réception des cadeaux. Et vous avez une part très importante aujourd'hui des Français, quand effectivement vous regardez les enquêtes d'opinion, qui sont très inquiets et très angoissés à l'idée de ne pas pouvoir effectivement acheter les cadeaux que leurs enfants effectivement souhaiteraient avoir et aimeraient avoir en bas du sapin. Donc je crois que cet élément-là angoissant, il faut aussi l'avoir en tête parce que pour un certain nombre de familles, ce n'est pas si évident que ça, les fêtes de fin d'année.
On repart au standard. Cette fois, c'est Ariel et nous partons pour cela à Dinan. Bonsoir Ariel.
Oui, bonsoir.
Bienvenue sur l'antenne de France Inter, Ariel.
Merci.
Vous aviez
une... Oui, je voulais juste témoigner. Tout à l'heure, vous demandiez c'est quoi une fête réussie.
Et tout de suite, j'ai pensé qu'une fête réussie, c'est quand tout le monde à la fin dit « on se retrouve l'année prochaine, c'était super ». Je pense que là, chacun y a trouvé ce qu'il souhaitait, soit danser, soit discuter, soit bouder, soit boire de l'alcool, soit fumer dehors en cachette de ses parents. J'ai connu ça pour ma première fille, par exemple. Et j'expliquais aussi au standard que ça fait maintenant 2 années que nous louons, 2 années de suite, que nous louons un gîte en septembre avec notre famille. Et en fait, voilà, c'est... Je pense que chacun est content. On est là avec nos propres enfants, ma sœur, nos conjoints, notre maman, qu'on a failli perdre il y a 2 ans. Et voilà, je pense que là, on a grand conscience que la famille, c'est important et qu'il faut voilà, faire la fête, mais entre guillemets la fête. Hein. Nous, il n'y avait pas forcément de musique, c'était... Voilà, c'est juste de se retrouver. Donc voilà, c'était juste ce témoignage-là que je voulais apporter.
Et ben merci beaucoup, Ariel. On vous souhaite une joyeuse fête de Noël ce soir, j'imagine.
Ben oui, je suis sur la route pour Baden, chez ma sœur Isabelle.
Et ben écoutez, on vous souhaite...
mon mari est avec moi, ma fille Pauline, Audrey est sur la route, Lucie est arrivée et ma maman est derrière.
Et ben on embrasse tout le monde et puis on vous souhaite surtout... une fête à l'issue de laquelle vous direz tous que c'était réussi et que vous ferez la même chose l'année prochaine.
Absolument.
Hein, puisque c'est ça la bonne définition pour vous, Jérémy Pelletier.
Ouais, c'est très intéressant. Effectivement, on l'a pas encore évoqué. C'est la dimension rituelle, effectivement, de la fête. Et effectivement, la fête permet effectivement de ritualiser nos vies, de ritualiser nos existences, de ritualiser effectivement nos moments de famille. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on fête notre anniversaire chaque année, parce que effectivement, ça permet de se positionner année après année par rapport à ce qui est notre existence. Et après, il y avait un élément intéressant dans ce que l'auditrice disait, c'était une fête réussie, c'est quasiment une fête qu'on aime raconter et avec laquelle, effectivement, on est très à l'aise pour se remémorer, effectivement, les souvenirs et ce qui s'est passé. Et c'est justement pour ça aussi que je pense que la fête est en partie abîmée et c'est en partie transformée. Il y a une phrase que j'aime bien, vous savez, c'est la moitié de la fête, c'est la façon dont on la raconte. C'est-à-dire la façon dont on la raconte le lendemain à nos amis, aux gens qui n'étaient pas là lors de notre soirée. Et ça vaut effectivement pour les fêtes familiales comme pour les fêtes effectivement en dehors de la sphère familiale.
Je vais vous citer hein, dans votre livre « La fête est finie, point d'interrogation », alors que visiblement, on peut enlever le point d'interrogation quand on vous lit. Vous dites « Quand on se regarde faire la fête plus qu'on ne la fait, quand on la montre plus qu'on ne la vit, quand on la raconte en direct plutôt que le lendemain, il en est malheureusement terminé de la fête telle qu'on l'entendait et la pratiquait naguère. »
Bah absolument, donc c'est exactement ce que je voulais dire.
Vous êtes d'accord avec vous-même, c'est l'essentiel. Mais ça, c'est très bien aussi.
Et là où je voulais en venir, c'est que effectivement les réseaux sociaux, les applications Instagram, Facebook, etc. nous ont transformés petit à petit, vous savez, comme des journalistes d'une chaîne d'info en continu, qui fait que finalement on tient au courant minute par minute de l'évolution d'une fête l'ensemble effectivement des gens qui nous suivent. Le problème, c'est que vous n'avez plus rien à raconter le lendemain, vous n'avez plus rien à raconter le surlendemain, parce que de toute façon tout le monde a vu ce que vous avez posté en direct et en permanence. Et effectivement, je crois que ce que ça traduit, c'est qu'effectivement, on se regarde beaucoup plus faire la fête, beaucoup plus qu'on l'a fait en réalité, ce qui témoigne et ce qui est l'illustration, à mon sens, effectivement, d'une société, évidemment, de plus en plus narcissique, qui se regarde d'abord avant tout vivre les événements plutôt que de les vivre intensément.
On va retrouver Christophe Moreau et lui demander à la fois de réagir à ce que vous venez de dire, Jérémy Pelletier, puis à la fois à ce que nous disait Ariel sur une fête réussie. Christophe Moreau, qu'en dites-vous ?
Bah, sur ce que disait Jérémy, je pense qu'effectivement on a une société qui est de plus en plus réflexive, c'est-à-dire on se regarde évoluer, mais ce n'est pas parce que les gens envoient une photo de leur menu qu'ils n'ont pas goûté à ce menu, vous voyez. Donc c'est vrai qu'on a une tendance à se regarder vivre. Regarder nos enfants grandir, mais ça ne veut pas dire qu'on ne les éduque plus, ça ne veut pas dire qu'on ne goûte plus nos repas ou qu'on ne vit pas la fête. Hein, on a cette tendance effectivement à publier des images, à garder des traces, mais ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas intensément les événements. Et c'est vrai que dans les recherches que nous on avait faites sur des groupes de jeunes, on avait des jeunes un peu plus conformiste, peut-être que c'est autour d'un tiers des jeunes fêtards qui se regardent évoluer, qui s'ennuient un peu, et chacun est sur son téléphone, et on ressent un ennui. Mais on a aussi d'autres groupes, on avait appelé ça des libertins, des jeunes qui vivaient à fond leurs émotions, qui vivaient intensément, souvent avec l'ivresse, la fête. Hein. Donc, et je veux dire, dans les deux groupes, il y avait de l'ivresse, mais c'était une ivresse différente. D'un côté, un espèce d'ennui, de repli sur soi, et puis dans d'autres formes festives, vraiment une exaltation, quoi. Donc, même s'il y a une tendance au numérique, à la photo, à la réflexivité, ça ne veut pas dire que les émotions fortes et la fête a disparu. Elle évolue, quoi. Et par rapport à ce que disait Ariel, une fête réussie, oui, c'est une fête qu'on a envie de reproduire. Alors, j'ai retenu cette idée de première cigarette. Enfin, il y a toujours un côté initiatique. Première cigarette, première ivresse.
Parce que là, pour le coup, il y a des choses à raconter.
Pardon ?
Parce que là, pour le coup, il y a quelque chose à raconter.
Oui, il y a quelque chose à raconter, mais pas simplement à raconter, il y a quelque chose à vivre. Et dans beaucoup de recherches qu'on a faites, d'abord, on voit que la famille est un des lieux principaux pour faire les premières fêtes, démarrer la fête, même si ensuite, ça va être avec les amis, les groupes d'étudiants, les groupes du travail et tout, mais la famille reste le creuset des expériences. Et beaucoup de gens vont vivre des initiations, notamment, on est à 90% des premiers verres d'alcool consommés en France. Pour ceux qui en ont consommé, tout le monde n'a pas consommé de l'alcool. Mais une grande majorité de la population française et les premières expérimentations, c'est en famille, c'est lors d'un baptême, lors d'un mariage. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'agrégation. On appartient à notre groupe, c'est ce soi social, on n'a pas le choix, on y est, il faut y être. Mais en même temps, on fait aussi des initiations pour un soi plus intime, comme disait notre collègue philosophe. Et c'est-à-dire qu'il y a à la fois une appartenance un peu obligée et une forme d'émancipation, de construction de soi, de premières expériences qu'on va retrouver dans beaucoup de soirées et qui font qu'elles sont aussi réussies parce qu'on a vécu des moments intenses.
Alors le collègue philosophe Stéphane Flocari, il est toujours en ligne. Est-ce que vous souhaitez réagir à tout ce qu'on vient de dire là ?
Oui, écoutez, encore une fois, je voudrais pas qu'on perde de vue ce soir la spécificité de la fête de Noël.
Non, alors justement, on va en parler, Stéphane Flocari, parce que vous avez écrit « Survivre à Noël » et on va en profiter pour ouvrir une petite parenthèse.
Je voudrais réagir à ce que disait Ariel. Ça me frappait par rapport à ce que vous me demandez. C'est qu'Ariel, j'ai l'impression que ce soir, elle a moins envie de s'éclater que de retrouver les siens.
Oui.
Et que je pense qu'on a plus envie de s'éclater, de faire la fête. De boire un peu plus que de raison, de danser, d'être tous ensemble, y compris avec ses amis, et d'élargir son groupe le soir du Nouvel An. C'est simplement ce que je voulais vous dire sur Noël. Et que ce soir, on a peut-être plus envie de retrouver les siens. Elle a cité longuement maman, la sœur, la fille, le mari, etc. C'est-à-dire, elle a cité les siens, en fait. Et en fait, ce soir, Ariel, comme chacun d'entre nous, ses vraies balises, ce seront d'abord les siens, d'être chez l'un d'entre eux et d'être ensemble et de se réunir autour d'un plat. Alors éventuellement, comme le disait notre collègue sociologue, peut-être aussi pour une initiation à un bon vin, une initiation à un bon mets, peut-être une première cigarette ou un premier cigare. Mais il me semble que, il y a une spécificité de cette fête de Noël. Voilà,
une fête dont le rôle social est essentiel, c'est ce que vous écrivez, Stéphane Flocari. Est-ce qu'on peut quand même dire en deux mots d'où vient Noël ? Parce que ce que vous expliquez dans votre livre, c'est que c'est pas forcément une fête chrétienne au départ. La tradition vient de plus loin.
Non, effectivement, pas du tout. Il a été évoqué tout à l'heure, la difficulté, le blues qu'on peut ressentir à Noël. Moi, je suis entré par Noël à travers la nuit. Il me semble que Noël, d'abord, ça commence quelques semaines ou quelques mois avant de le vivre. Ça commence par un moment où la nuit nous gagne, où les jours se réduisent. On avance vers le solstice. Et effectivement, en Perse, à Rome, mais aussi dans les pays nordiques, on a d'abord fait une fête de la nuit, dans laquelle la bûche, la lumière, la guirlande, tout ce qui brille et tout ce qui nous ramène vers le jour, ce qui donc nous ramène vers le solstice, nous ramène vers la lumière, nous ramène vers peut-être aussi des émois qui seront un peu moins, mélancoliques, eh bien c'est tout ça Noël. Et effectivement, avant d'être une fête chrétienne, ça a été une fête romaine, une fête perse, une fête scandinave, et les Romains ne s'y sont mis qu'assez tard, puisqu'ils n'avaient pas du tout fixé au départ la naissance du Christ, le 25 ou le 24 décembre, mais il l'avait fixé à l'équinoxe, c'est-à-dire à la fin du mois de mars, au moment où le jour et la nuit, précisément, s'équilibrent, comme à la Genèse, quand Dieu est censé avoir créé le monde. Mais les chrétiens ont été obligés de, je dirais, de s'aligner sur des cultes à Noël, notamment à travers les Saturnales romaines, qui avaient largement pénétré les sociétés. Et quand ils ont même voulu, des fois se débarrasser de Noël, les chrétiens n'y sont pas arrivés. Au XIVe siècle, au Concile de Prague, ils n'ont pas réussi. Et encore au milieu du XXe siècle, quand on a voulu s'en prendre à un symbole de Noël, il y a eu une très forte réaction dans la presse et dans la société française.
Donc ça vient de loin, cette histoire?
Ça vient de très très loin, effectivement, le culte de Noël. Mais, alors, pour le dire plus étroitement, le Noël tel que nous le connaissons aujourd'hui, culturellement, socialement, économiquement, c'est quand même une invention de l'Angleterre victorienne. On peut situer aux années 1840, avec l'introduction d'un premier sapin de Noël au château de Windsor par la reine Victoria, le début, le coup d'envoi du Noël moderne ou contemporain, qu'on retrouve dans les contes de Dickens, et qui va, à travers les contes de Dickens, traverser l'Atlantique dans les deux sens, si je puis dire, faire des allers-retours permanents, et devenir la grande fête commerciale et marchande qui est devenue Noël à travers les États-Unis. Puis ensuite, c'est passé dans le cinéma, dans la publicité. Il y a toute une imagerie de Noël qui s'est créée à ce moment-là. Et elle n'est vraiment arrivée telle que nous la connaissons aujourd'hui en France et en Europe qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
Voilà.
Là, un certain nombre de classes populaires ont pu accéder vraiment à un Noël où on peut s'acheter des cadeaux, on peut essayer d'avoir un nez sur la table un petit peu plus cossu que le reste de l'année, quand voilà, on peut se le permettre.
Voilà, survivre à Noël, c'est le titre de votre livre dans lequel on a tous ces détails. On va retourner au standard de France Inter, retrouver Yann. Bonsoir Yann.
Bonsoir.
Merci d'avoir patienté. Yann, ma petite fiche me dit que vous avez 21 ans.
Exactement, oui.
Et que vous êtes rugbyman.
Oui.
Ah, ça nous interpelle, ça.
Ça vous interpelle sur pourquoi?
Ah ben, je vais vous poser la question. On nous parle de Jérémy Pelletier, le dit bien, la fête de ceci, la fête de ceci, la fête du rugby, la fête du foot, la fête de... Alors, le fait que vous soyez rugbyman, ça compte dans votre pratique de la fête?
Ah, ben, je pense que ça peut compter, en effet. Après, je pense que tous les prétextes sont bons pour faire la fête. Bon, moi, je suis rugbyman, la troisième mi-temps, on connaît bien. Bon, ça finit à poil sur le bar, ça tire avec les collègues, ça finit à pas d'heure, c'est les excès, voilà. Et bon, après, il n'y a pas que dans le rugby. Bon, on le voit très bien aujourd'hui avec Noël, ça marche aussi avec la famille. Donc, je pense que tout, peu importe la personne qui on est, peu importe l'endroit où on est, l'objectif, c'est de s'amuser, c'est les excès, c'est faire la fête, et bon, voilà.
Et pour vous, il y a des... Comment dire? Est-ce qu'il y a des nécessités pour qu'une fête soit réussie?
Ah oui, la fête, c'est une ambiance, c'est le parquet qui colle, c'est l'odeur de la cigarette, c'est les copains, c'est la fête jusqu'à pas d'heure, comme je l'ai dit, voilà, c'est les excès. Pour revenir à ce que disait, je ne sais plus qui, enfin, des invités de ce soir, je pense que la fête, c'est pas uniquement la fête en elle-même, c'est aussi le lendemain, les souvenirs, en parler avec les autres, voilà, donc c'est un peu tout ça, voilà.
C'est aussi un moment, un espace où les règles ne sont pas tout à fait les mêmes, où on s'autorise des choses un peu interdites.
Tout à fait, oui. Bah là, c'est pour en revenir. Bon, encore une fois, je reviens à la question des excès, quoi. Oui, c'est open bar, on fait ce qu'on veut, ça finit en poil, comme je l'ai dit, ça fait tourner les serviettes.
Eh ben, dites donc. Monsieur est un connaisseur.
Ah oui, mais je pense qu'on l'est tous un petit peu, après il faut l'admettre. Moi, j'avoue que je suis pas du tout pudique sur la question. Donc voilà, mais la fête, c'est les excès, il ne faut pas se cacher derrière ça. Bon là, j'ai entendu survivre à Noël, je pense pas qu'il faille survivre à Noël, je pense qu'il faut tout simplement vivre Noël, vivre la vie, vivre la fête et fêter la vie, voilà, et c'est ce que je retiendrai de notre discussion ce soir.
Merci Yann, j'ai même pas besoin de vous souhaiter une bonne soirée. Je pense que ça va de soi quand on
oui.
quand on bah oui, ça va de soi quand on vous entend. Un joyeux Noël quand même. Peut-être Christophe Moreau sur ce que vous venez d'entendre là et notamment sur le fait que par exemple l'alcool fait partie de la fête. Comment vous réagissez quand vous entendez Yann ?
Bien, écoutez, je suis content pour lui. Je vois qu'il profite de la vie, mais c'est un peu une constante. Hein, dont chacun a ses propres limites, mais il y a souvent des excès, effectivement. Il y a souvent aussi besoin de se désinhiber. Hein. Donc l'alcool est un produit qui permet de se désinhiber, donc d'aller exprimer des émotions un petit peu plus fortes. Donc ça fait partie, effectivement, des fêtes. Mais après, on peut se référer à la notion de carnaval. Et en anthropologie, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup de sociétés hein, qui ont recours à des parenthèses, à des temps forts, des espèces de carnaval à un moment donné. Les charivari aussi au Moyen Âge, les groupes de jeunes qui faisaient du tintamarre pour réclamer justice en fait par rapport à un mariage qui n'était pas vécu positivement par eux entre un très vieux et puis une jeune femme par exemple. Donc il y a toujours eu des excès, des débordements, mais en fait ce qu'on peut dire c'est que ces excès ou ces 5-6 jours de carnaval au Brésil par exemple, ça vient conforter les règles du quotidien. C'est-à-dire que l'être humain a besoin, comme disait Stéphane Flocari tout à l'heure, de faire un pas de côté, c'est-à-dire on vit des règles, on vit des normes, y compris de santé publique, et puis de temps en temps, on a besoin de lâcher la soupape, de faire des expériences, d'aller au-delà des règles, mais en fait, ça n'est pas nier ces règles de vie, ça vient en fait les conforter. C'est-à-dire que lâcher de temps en temps cette soupape, ça nous permet en fait, de mieux accepter la vie du quotidien, quoi. Et par rapport à ce que disait Stéphane Flocari tout à l'heure sur l'invention de Noël, je trouvais ça très intéressant, enfin le développement de cette fête de Noël. En anthropologie, ce qu'on voit bien, c'est qu'effectivement, on est tout à fait lié aux saisons. Hein, donc beaucoup de fêtes, dans les sociétés rurales notamment, sont des fêtes calendaires au moment du solstice et des équinoxes. Donc les fêtes des moissons au solstice d'été, la Saint-Michel à l'équinoxe à l'automne. Et puis on avait aussi du côté des Celtes cette question de la lumière qui disparaît l'hiver, c'était la fête de la Samhain, hein, donc début novembre, le jour commence à franchement raccourcir, et donc il y avait tout un tas de célébrations et de croyances autour de la Samhain. Voilà, ça a été repris d'ailleurs par Halloween, hein, donc il y a des récupérations, religieuse et puis commerciale hein, de ces fêtes, mais qui remonte à très très longtemps, qui remonte aux sociétés rurales. Hein. Donc effectivement, avec ce pic le 17 décembre, la Sainte-Lucie, la fête de la lumière, qui est encore célébrée en Scandinavie, par exemple. Donc effectivement, Noël, comme beaucoup des fêtes traditionnelles, est ancré sur un calendrier en fait des planètes et un calendrier rural.
Merci Christophe Moreau. Jérémy Pelletier, sur ce que disait Yann, notre rugbyman, qui contredit totalement le titre de votre livre sur la fête est finie, parce que franchement, quand on l'écoute, on se dit que c'est pas fini du tout.
Alors non, mais c'est très important effectivement qu'il cite effectivement l'alcool, les excès de l'alcool, parce que justement si une partie de la fête est finie, c'est justement raison, vous savez, de la place prise par quelque chose qui va à l'encontre justement des excès de l'alcool, à savoir la culture du bien-être. La culture qui nous oblige à prendre soin de notre corps effectivement en permanence, c'est la culture des petits footings, effectivement, vous savez, le dimanche matin, des petits footings quotidiens. Et je suis convaincu que vous allez avoir beaucoup de gens ce soir dès minuit qui vont être très angoissés à l'idée effectivement de se lever le matin pour aller faire leur petit footing, pour vite aller effectivement gérer les excès effectivement de la veille. Donc justement, je crois que la culture du bien-être dans laquelle la société est, a tendance à annihiler, en tout cas, les excès qu'on s'autorise encore à faire.
Merci beaucoup Jérémy Pelletier pour cette analyse. La fête est finie, c'est donc ce livre que vous publiez aux éditions de l'Observatoire. Je ne sais pas, est-ce qu'il me reste encore un petit peu une minute? Je ne savais une minute encore. Je peux donc donner pour terminer la parole à Stéphane Flocari. Stéphane Flocari, si vous aviez un message à nous faire passer ce soir, parce qu'on est à une semaine de Nouvel An, ensuite il y aura ensuite l'Épiphanie, on va tirer les rois, donc et on a encore de la marge.
Ah, écoutez, moi je crois que dans des temps aussi incertains que les nôtres, aussi difficiles à vivre, on a parlé de société du bien-être, on est aussi dans une société du travail. On voit bien que les gens sautent sur la première occasion, un apéro, une réunion entre potes, retrouver des amis, des copains, des collègues au travail, en dehors du travail, essayer de vivre des moments. Je pense qu'on a besoin de vivre des moments, on a besoin de vivre des moments vrais. Alors, notre ami rugbyman, eh ben, il les vit avec un peu d'alcool, avec ses copains, sans doute à travers le club. On peut les vivre autrement, on peut aussi les vivre encore à travers la famille, même si c'est une valeur évidemment qui s'est complètement restructurée dans les temps contemporains.
Et on a épuisé notre minute.
L'important, c'est de la vivre vraiment, cette fête. Voilà.
Merci beaucoup.
On a envie.
Merci Stéphane Flocari, merci beaucoup Jérémy Pelletier. Merci à tous les trois et à tous ceux qui nous ont appelés. Dans un instant, c'est l'heure philo avec Patricia Martin qui reçoit ce soir Jules et Charles Pépin pour leur livre « La planète des sages ».